Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9NR3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, paru initialement en 2008 et réédité en format de poche. Cet essai du géopoliticien Dominique Moisy propose une lecture des relations internationales qui complète les approches centrées sur la puissance militaire, les intérêts économiques ou les institutions. Son point de départ est simple, les sociétés agissent aussi à partir de sentiments collectifs, façonnés par leur histoire, leur place dans la mondialisation et leur perception de leur avenir. Moisy organise cette carte émotionnelle autour de trois pôles: la peur, associée principalement aux sociétés occidentales, le sentiment de humiliation, particulièrement étudié dans le monde arabe et musulman, et espoir, repéré dans une partie de Asie en forte transformation. Le livre ne prétend pas remplacer les outils classiques de la géopolitique. Il cherche plutôt à rendre intelligibles les imaginaires collectifs qui influencent les choix politiques, les conflits et les représentations réciproques. Accessible tout en restant ambitieux, il invite à considérer les émotions comme des faits politiques à part entière. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une carte du monde fondée sur les émotions collectives. La proposition distinctive de Dominique Moisy consiste à cartographier le monde selon des climats émotionnels dominants plutôt que selon les seules frontières, alliances ou capacités économiques. La peur, humiliation et espoir ne désignent pas ici des réactions individuelles isolées. Elles renvoient à des sentiments partagés, entretenus par la mémoire historique, les médias, les discours publics et les expériences sociales. Cette grille entend expliquer pourquoi des sociétés confrontées à des conditions matérielles comparables peuvent interpréter leur situation de manière très différente. Une collectivité qui se sent menacée privilégiera plus volontiers la protection et le repli. Une autre, marquée par la perte de statut ou par une domination vécue, pourra chercher reconnaissance et revanche. Une troisième, convaincue que son avenir sera meilleur que son passé, acceptera plus facilement le changement et la compétition. La force de ce cadre est de réintroduire la perception dans l'analyse des rapports de force. Une puissance ne se définit pas uniquement par ses ressources objectives, elle dépend aussi de la confiance ou du ressentiment qui traverse sa population. Cette approche rappelle enfin que les politiques étrangères sont reçues, interprétées et parfois déformées par des sensibilités collectives. Deuxièmement, la peur occidentale entre sécurité, déclin et perte de contrôle. Dans la lecture de Moisy, la peur devient un trait important des sociétés européennes et nord-américaines. Elle ne se limite pas à la crainte du terrorisme ou de la guerre. Elle recouvre aussi les inquiétudes liées au chômage, aux migrations, au changement social, au recul relatif de l'Occident dans l'économie mondiale et à la fragilité des repères culturels. Cette pluralité permet de comprendre pourquoi les débats de sécurité prennent une place considérable dans la vie publique. Le sentiment de vulnérabilité peut favoriser des réponses de surveillance, de fermeture ou de recherche de certitude politique. Le livre met ainsi en relation les angoisses intérieures et les attitudes internationales. Une société préoccupée par sa sécurité peut éprouver davantage de difficultés à concevoir les priorités des autres régions du monde. Cette partie appelle néanmoins une lecture prudente. Regrouper sous une même émotion des réalités nationales et sociales diverses comporte un risque de simplification. Les populations occidentales ne réagissent pas toutes de la même façon aux attentats, aux crises économiques ou aux transformations démographiques. La valeur du chapitre réside donc moins dans une étiquette définitive que dans une question utile: comment la perception du déclin et de l'insécurité influe sur les décisions collectives. Troisièmement, le sentiment de humiliation comme clé de lecture du monde arabe et musulman. Le traitement du sentiment de humiliation dans le monde arabe et musulman constitue le noyau le plus souvent relevé de l'essai. Moisy relie cette émotion à une histoire faite de grandeur passée, de domination coloniale, de défaites militaires, de dépendance politique et de frustration face aux promesses inachevées de la modernisation. Le point essentiel est que l'humiliation ne correspond pas à une simple pauvreté matérielle. Elle naît aussi de l'impression que la dignité collective, la souveraineté ou la reconnaissance sont refusées. Cette distinction aide à comprendre pourquoi une amélioration économique ne suffit pas toujours à apaiser les tensions. Des acteurs politiques peuvent mobiliser le ressentiment en présentant les difficultés internes comme la conséquence de l'ingérence extérieure ou de mépris international. Moisy ne réduit pas les sociétés concernées à cette seule émotion, ni les conflits à une cause psychologique. Il montre plutôt que ce sentiment peut donner une cohérence affective à des griefs très différents. La conséquence analytique est importante, une diplomatie uniquement fondée sur les intérêts risque de manquer la dimension symbolique des crises. Le respect, la reconnaissance et la capacité des populations à se sentir actrices de leur destin deviennent alors des variables géopolitiques concrètes. Quatrièmement, espoir asiatique et projection vers un avenir de mobilité, Moisy associe une partie de l'Asie, notamment Inde, Chine et plusieurs pays de l'Asie du Sud-Est, à une culture de l'espoir. Il ne décrit pas un bonheur uniforme ni une absence de tension. Il souligne plutôt une orientation vers l'avenir alimentée par la croissance, la mobilité sociale, le développement urbain et la perception de nouvelles possibilités nationales. Dans cette perspective, le contraste avec les sociétés hantées par le déclin et déterminant le dynamisme vient aussi de la conviction que la génération suivante pourra vivre mieux que la précédente. Cet espoir peut renforcer la capacité de travail, investissement, adaptation et confiance dans la compétition mondiale. Il éclaire également la montée en influence de ces régions. Car une société qui se projette positivement vers l'avenir tend à transformer plus facilement ses succès économiques en ambitions politiques. La thèse appelle toutefois des réserves. Les immenses inégalités, les contraintes politiques et les fractures territoriales rendent impossible toute généralisation simple sur les populations asiatiques. Assimiler espoir à optimisme économique peut aussi laisser dans l'ombre les expériences des groupes marginalisés. Le livre reste fécond lorsqu'il invite à étudier comment les récits de progrès orientent les comportements collectifs, plutôt que lorsqu'ils fixent des identités émotionnelles trop homogènes. En dernier lieu, dépasser les modèles rigides sans effacer la complexité des sociétés. Le livre se situe implicitement face aux grands modèles qui ont cherché à ordonner le monde après la guerre froide par économie, la démocratie libérale ou les civilisations. Moisy propose une variable transversale, les émotions circulent entre les frontières, traversent les cultures et évoluent avec les crises. Il reconnaît aussi des espaces difficiles à classer où plusieurs sentiments se combinent, comme la Russie, Afrique, Israël ou Amérique du Sud. Cette précaution indique que sa carte doit être comprise comme une hypothèse interprétative et non comme un découpage fixe. La principale utilité de la méthode est de pousser le lecteur à examiner les récits nationaux, les humiliations mémorielles, les peurs médiatisées et les attentes de mobilité avant de conclure à l'irrationalité de tel ou tel acteur. Elle encourage une forme de lucidité relationnelle. Comprendre une émotion ne signifie ni approuver les politiques qui en découlent, ni excuser la violence. Cela signifie identifier les mécanismes par lesquels un sentiment devient une ressource de pouvoir. La limite demeure celle de toute géographie des cultures, les catégories peuvent masquer les désaccords de classe, de génération, de genre ou de territoire. Cette tension fait aussi intérêt durable de Essai, qui invite à discuter ces cartes plutôt qu'à les accepter comme des diagnostics définitifs. En conclusion, cet ouvrage conviendra aux lecteurs de relations internationales, aux étudiants, aux enseignants et à toute personne cherchant une entrée accessible dans les représentations collectives qui accompagnent les crises mondiales. Il sera particulièrement utile à ceux qui connaissent déjà les explications par la puissance, les ressources ou les institutions et qui souhaitent comprendre pourquoi des décisions apparemment rationnelles rencontrent parfois des réactions de peur, de ressentiment ou de confiance. Sa lecture apporte un bénéfice intellectuel précis, elle apprend à distinguer l'effet matériel de leur interprétation sociale sans opposer artificiellement raison et émotion. Cette distinction peut enrichir l'analyse de la diplomatie, des conflits, des politiques de sécurité et des débats sur la mondialisation. Par rapport aux essais géopolitiques plus classiques, le livre se démarque par son ambition de faire des affects collectifs une variable centrale de l'analyse. Il ne transforme pas les émotions en explications uniques, mais les place au contact de l'histoire, de la mémoire et des rapports de domination. Sa force réside dans la clarté de sa grille, qui rend visibles des dimensions souvent négligées. Sa limite, également instructive, tient au risque de généraliser des sociétés très diverses sous une émotion dominante. Lu comme un outil de questionnement plutôt que comme une carte immuable, cet essai demeure une contribution singulière pour penser les fractures et les malentendus du monde contemporain. Si vous souhaitez soutenir Dominique Moisy, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.